France Inter, le 18-20.
La publicitaire Mercedes Era avec nous jusqu'à 19h pour évoquer les conséquences de la crise du coronavirus sur le secteur de la pub qui n'échappe pas à la crise, loin de là. Il est même durement touché. Notre invitée, cofondatrice de l'agence BETC, nous dira comment son agence a vécu les deux derniers mois, comment on communique en période de crise et quelles sont les perspectives pour la suite, sachant que les Français ont changé en partie leurs habitudes de consommation lors du confinement. Nous serons aussi en ligne avec le sociologue Hamza Esmili pour évoquer le cas de la Seine-Saint-Denis, le département dans lequel Mercedes Era a choisi d'implanter son agence. Également au sommaire de cette émission, préparée par Virginie Rouzic et Pierre Dessertaine, notre rubrique « Heureux déconfiné » avec Sandrine Houdin ce soir, le bon goût de l'herbe retrouvé après deux mois passés enfermés. À 19h20 au téléphone sonne, la symphonie inachevée des municipales. Le second tour aura lieu dans 5 semaines, si tout va bien, sur le plan sanitaire. Il se déroulera le 28 juin dans des conditions bien particulières, on verra lesquelles, et on répondra à toutes vos questions au 01 45 24 7000. D'avance, merci à Siwene et Théo, nos standardistes qui attendent vos appels. Merci à Arnaud Caillé, Ludovic Asselot à la technique et à Olivia Ferrandi à la rédaction en chef.
Claire Servageant. Le 18-20.
Bonsoir Mercedes Era.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous jusqu'à 19h. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'agence BETC, la plus grande agence française de publicité, présidente exécutive d'Avas Worldwide. Alors, nous traversons une crise sanitaire qui a des conséquences dans beaucoup de domaines, et notamment dans le domaine économique. J'imagine, Mercedes Era, que le marché publicitaire n'est pas épargné. Est-ce qu'on peut parler même de cataclysme dans votre secteur ?
En tout cas, c'est une crise importante, très forte. C'est simple, en fait, notre métier est profondément relié aux entreprises. Donc, on a des secteurs qui sont fortement touchés. Je dirais que les secteurs peuvent aller de moins 10% à moins 90%. Donc, en fait, beaucoup de nos clients sont très touchés et du coup, ont du mal à communiquer. Donc, je crois qu'on n'a pas fini d'avoir un problème dans la communication important. Ce sont des petites entreprises, en général, les agences de communication. Même quand elles sont grosses, entre guillemets, comme moi, c'est quand même des ETI ou des TPE, des petites structures. Donc, elles sont en risque. On va perdre 50% de notre business, si j'ose dire, et donc, on va être touché obligatoirement. Il y a des secteurs comme l'événementiel. Vous imaginez ce qui est en train de se passer.
Parce que j'imagine que la communication, c'est souvent le premier poste qui est touché en cas de crise.
Alors, c'est le premier poste, ça dépend. Parce qu'en fait, de plus en plus, il y a une maturité par rapport à la compréhension des marchés. Et les marques savent très bien que si elles communiquent, elles prennent des points. Et d'ailleurs, ça s'est vu à travers cette crise. Les marques qui ont communiqué s'en sortent beaucoup mieux que les marques qui ne communiquent pas. Mais en même temps, vous pouvez pas, dans des catastrophes de cet ordre, qui sont quand même importantes, vous imaginez le marché de l'aviation, les automobiles, la restauration, les hébergements, les transports, tout ça, ils n'y arrivent plus. Donc, ils arrêtent de communiquer parce que ça a été extrêmement violent. Sur leurs chiffres, ils n'y arrivent plus.
Mais globalement, Mercedes Era, est-ce qu'il vaut mieux communiquer ou pas en temps de crise ? Vous dites que ceux qui l'ont fait s'en portent mieux, mais est-ce que c'est un conseil général que vous leur donnez de continuer à communiquer ?
Dans la mesure du possible, oui, bien sûr. Ceux qui, c'était une théorie qui a été de nouveau réaffirmée, c'est que on gagne des parts de marché en communiquant pendant les crises. Parce que les gens sont quand même toujours sensibles à votre présence. Et c'est d'autant plus fort pendant cette crise qu'il y a eu une modification du type de présence, une présence de plus en plus qu'on appelle une présence corporate, ça veut dire une présence de l'entreprise, plus que uniquement des marques qui ont contribué, ont donné de l'aide par rapport à une crise qui était inattendu, une crise sanitaire très forte. Et là, oui, il y a eu, en tout cas, une positivité de l'accueil par le public qui a été très importante sur les entreprises qui ont communiqué.
ça doit être quand même difficile de communiquer sans choquer dans une période comme celle-là. Il doit y avoir une ligne de crête assez étroite, non ?
En fait, d'abord, il y a des gens qui ont continué à communiquer comme ils communiquaient avant. Et ça, ça n'a pas choqué. Ça ne choque pas lorsque on vend des produits finalement qui continuent à être consommés parce que on fait déjà, de toute façon, c'est très précis la communication. Donc, on choque pas avant, on choque pas durant. Après, il faut faire très attention lorsque justement vous venez sur le terrain de l'entreprise à simplement dire ce que vous faites, à vous exprimer sur les choses réelles d'aide et de soutien. Ça aussi, c'est des éléments d'importance. Donc, c'est ça, la ligne de crête. Mais elle est vraie pendant les crises, mais elle est vraie tout le temps.
Parce qu'on a vu, par exemple, une énorme entreprise comme Coca-Cola arrêter totalement la pub. C'est quand même quelque chose d'exceptionnel, ça, Mercedes Serra.
Pour moi, c'est une erreur. Je suis pas sûre que c'est été... vous savez, aujourd'hui, quand on fait des études très précises avant, après, on s'aperçoit que dans le après, les gens demandent de la positivité, qu'on continue à construire le monde de façon positive. Ils sont très, très inquiets sur le catastrophisme et ça va être un des enjeux les plus importants. Donc, on peut s'arrêter, on peut continuer, mais en tout cas, les entreprises qui ont continué s'en sont sorties très positivement. Et les gens ont été très sensibles. On a vraiment un marqueur dans nos études de ceux qui ont communiqué, les crédits agricoles, les entreprises comme Leclerc, hein, ont été perçus comme très positifs par rapport aux consommateurs, au public, de façon large. On voit un mouvement depuis plusieurs années qui mélange marque et entreprise. Autrefois, une marque, on ne remontait pas à l'entreprise. Maintenant, on remonte à l'entreprise. Donc, ils ont été aussi, notre public, il a été extraordinairement sensible au fait de continuer à servir les gens, trouver des systèmes pour continuer à les approvisionner, continuer à laisser les agences du Crédit Agricole, par exemple, ouvertes. C'est des choses auxquelles il a été extrêmement sensible.
Voilà, et puis communiquer en douceur, en parlant de solidarité, un côté cocooning. On va écouter un petit mix sonore de quelques publicités de ces temps de confinement qui a été préparé par Olivia Ferrandi. Alors, on a enlevé les marques, hein, Mercedes Serra, parce que nos éditeurs sont un petit peu chatouilleux en la matière, mais au moins, on va entendre le ton général.
La maison. On n'aura jamais été autant à la maison. Ce lieu qui nous rassure, qui est notre extension.
Solidaire de tous ceux qui ont redécouvert la joie de faire le ménage et de garder leurs enfants. Comment s'ennuyer ?
La technologie ne pourra jamais remplacer la présence de ceux que vous aimez. Mais nos équipes seront toujours là pour vous rapprocher.
Aux livreurs qui se lèvent quand on dort. Aux caissiers et aux pharmaciens qui nous sourient derrière leurs masques. Aux personnels soignants et à ceux qui les applaudissent.
Prenons soin de nous. Restons à la maison.
Voilà, de l'art de parler du Covid sans en prononcer le nom, Mercedes Serra. Restez sobre et ne pas trop en faire, hein, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure.
Je pense que il fallait être assez juste. Après, le fait qu'il y ait une solidarité, même en termes de mots, en termes de vocabulaire, entre les marques et ce que vivent les gens, ça s'appelle l'empathie. Donc c'est normal, c'est humain. Et ensuite, ce qui les a marqués, c'est... le fait que beaucoup de marques se sont mis à fabriquer des gels, que des marques se sont mis à fabriquer des masques. On voit, en fait, on travaille sur plusieurs publics, mais on voit la relation entre les entreprises et les gens devenir montée en termes d'évaluation positive, alors qu'on voit des éléments à l'égard du gouvernement beaucoup plus nerveux que cela. Donc, c'est assez étonnant, hein. Cette communication des marques, elle a plutôt été dans un sens positif pour les gens.
Vous disiez, il y en a qui ont fabriqué du gel, des masques, hein, on pense à L'Oréal, LVMH.
Bien sûr,
qui ont,
à LVMH. Voilà.
Ça fait partie quand même de la stratégie commerciale ?
Non, ça fait partie de la stratégie d'une entreprise. Aujourd'hui, les gens attendent beaucoup des entreprises. Ils attendent, bien sûr, ils savent qu'une entreprise, c'est fait pour faire du profit. Les gens ont du bon sens. Donc, c'est fait pour faire du profit. Ils sont d'ailleurs assez inquiets quand il n'y a pas de profit, parce que ça prouve que l'entreprise est mal gérée. Mais en revanche, ils pensent qu'elle n'est pas faite que pour ça. Et de plus en plus, ils vont demander à l'entreprise d'abord de respecter des choses très importantes qui sont tout ce qui est de l'ordre du développement durable, de la relation à la planète, qui devient très, très, très puissant. Et d'autre part, d'avoir un rôle social. Donc, pour eux, c'est normal que les marques interviennent. C'est normal que les fabricants de chocolat aient donné du chocolat aux soignants, parce que, bizarrement, ils ont demandé. Parce que tout le monde est un être humain et tout le monde a envie, à un moment donné, d'une multitude d'aides, de soutien. Et ça, c'est très important. Mais ça, c'est parce qu'on a une évolution importante dans le sens de qu'est-ce que fait l'entreprise pour faire du bien autour de soi. On n'est pas dans un monde, le public est un public intelligent, ils savent très bien qu'on est là aussi pour gagner de l'argent, mais on doit le faire dans une certaine façon de faire. D'abord, toutes les entreprises ont été obligées d'inventer des modes de travail respectueux des gens qui travaillaient pour eux. Ça, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, aller vers le public, probablement en essayant de faire quelque chose, d'apporter quelque chose.
Alors, il y a certains secteurs qui sortiront peut-être gagnants, entre guillemets, de cet épisode. Mercedes Serra, on pense quand même à la grande distribution qui, pour l'instant, a tiré son épingle du jeu, la vente en ligne. Mais que dire du secteur des transports? Vous évoquiez tout à l'heure le secteur automobile qui, a priori, pourrait retrouver des couleurs. Pour le secteur aérien, ça risque d'être plus difficile. Et si je vous pose cette question, c'est parce qu'on sait que vous vous êtes occupé d'Air France à une époque. Hein, faire du ciel le plus bel endroit de la Terre, c'était vous. Ce sera très difficile pour le secteur aérien?
C'est difficile. D'abord, je pense que même pour les distributeurs, globalement, la crise ne sera bonne pour personne. Pour le secteur aérien, elle est très, très difficile, évidemment. On ne sait pas exactement combien de temps nous allons mettre pour retrouver les chiffres que nous avions avant la crise. On parle de 2 ans, on parle de 3 ans. On est inquiet sur la crise économique qui vient. On a peur qu'elle fasse plus de mal que la crise sanitaire. Donc non, on est inquiet. C'est une crise sans précédent. De stopper un pays comme on l'a stoppé, c'est une crise sans précédent. Donc oui, bien sûr, vous touchez un des secteurs les plus graves, l'aviation, pour plein de raisons aussi, parce que on n'a pas repris les vols, que les vols vont devenir bien plus chers si on est obligé de surveiller combien de personnes on met dans un avion, que tout ça a été stoppé d'un coup et que les compagnies d'aviation n'étaient pas des compagnies qui roulaient sur l'or. Elles avaient du mal à tenir leurs chiffres, leurs données. Donc là, oui, c'est très dur. Et il faudra avoir une préférence et aider Air France de façon importante, parce que c'est très important d'avoir une compagnie française qui continue.
Alors, la grande question, c'est de savoir comment, pour la suite, les consommateurs vont réagir. Vous allez l'entendre avec ces témoignages recueillis en région parisienne et à Lyon. Il n'y a pas vraiment de tendance très nette pour l'instant.
On n'a pas dépensé, on s'est pas fait de petits plaisirs pendant 2 mois. On a un peu perdu le petit train de vie, aller faire les magasins, profiter, boire un verre, etc. Et là, boire un verre, non. Donc du coup, acheter, se faire plaisir.
Les premiers mots, c'est je me fais un cadeau de déconfinement, j'ai acheté à manger pendant 2 mois, aujourd'hui j'ai envie de me faire plaisir. Nous, on est là et elles répondent présent.
Elles ont envie d'un truc, mais pas de 2-3 trucs. C'est je m'achète un bracelet alors qu'avant elles auraient pu en prendre 3 ou 4. Non, c'est très raisonné et raisonnable. On se trouve moche, une fille se trouve pas belle avec son masque, donc elle a pas envie d'essayer un sautoir. Et puis il y a l'inquiétude financière, on consomme doucement.
On consomme doucement, Mercedes Erra. En tout cas, est-ce qu'on a une idée des aspirations des Français? On sait par exemple que le Made in France est une valeur en hausse à la sortie de ce qui vient de nous arriver.
Alors, on a une idée très précise. D'abord, on sait qu'ils sont inquiets. Donc, ils sont inquiets parce qu'ils commencent à sentir qu'il va y avoir une inquiétude économique forte. Ils sont inquiets sur le chômage. Ils sont inquiets et ils ont mis de l'argent de côté. En France, il y a beaucoup d'épargne, l'épargne s'est accentuée. Mais tant qu'il y a de l'inquiétude, on va gérer les dépenses de façon plus raisonnable, et on a raison de les gérer de façon raisonnable. Mais il faut aussi imaginer que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire que si on court pas vers la reprise intelligente, mais la reprise tout de même, on a quand même une inquiétude sur l'économie. L'économie, il lui faut une relance. Et pour le moment, on a plutôt des consommateurs inquiets, et envie de consommer, mais très angoissés, très inquiets à l'idée de ce qui va se passer. Je pense que le catastrophisme aussi, les inquiétudes, y compris des inquiétudes écologiques, dans nos études, les gens disent « arrêtez, quoi, donnez-nous un sens dans le futur ». On sait que la planète est menacée, on sait qu'il faut faire des choses différentes, mais comment prendre le sujet positivement? Parce que si on est trop noir, on va pas aider cette reprise. Et cette reprise économique, on en a besoin.
Et pour cette relance, Mercedes Serra, l'État doit absolument intervenir et de manière forte?
De toute façon, l'État intervient de façon extrêmement forte. Pour le moment, elle intervient dans tous les secteurs, pas dans celui de la communication à proprement parler, mais aussi avec le chômage partiel. Lorsqu'on va arrêter ce stade de chômage partiel, on va compter ce qui se passe exactement. Et donc, c'est là où vient l'inquiétude. Après, d'un point de vue filière, c'était filière de la communication, on réfléchissait quand même à l'aide de l'État pour peut-être proposer un crédit d'investissement à la pub, considérer que les marques, lorsqu'elles dépensent en pub pendant 3 mois, c'est plutôt qu'une charge, un investissement, et donc fiscaliser un peu moins cela, ça serait une façon assez formidable d'aider les marques et les entreprises à communiquer. Et communiquer, c'est toujours un indicateur fort de reprise. Vous savez que on calcule à peu près que pour 1 euro investi, on retrouve 7 euros. C'est à peu près les chiffres qui sont les plus précis aujourd'hui. Et donc, on a besoin de ces éléments de communication. On en a besoin pour une autre raison. Nos médias ont payé la crise fortement. Moins 50%, alors que tout le monde était devant la télévision, moins 50% d'investissement de communication en télévision, moins 60% en radio, encore moins 65% en presse. Donc, les médias aujourd'hui sont en fragilité et il faut aussi faire en sorte que les médias français, en plus, puissent continuer à vivre et qu'on se retrouve pas quand même avec une perte de ce point de vue-là importante.
Alors cette crise, on l'a beaucoup dit, elle a servi de révélateur dans beaucoup de domaines. Elle nous a ouvert les yeux sur des réalités qui étaient pourtant devant nous. On va évoquer maintenant, Mercedes Serra, le cas de la Seine-Saint-Denis, puisque c'est le département dans lequel vous avez choisi d'implanter votre société, à Pantin. Pour cela, nous sommes en ligne avec le sociologue Hamza Esmili. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à Paris 8. Concernant la Seine-Saint-Denis, on en a déjà parlé, mais faut peut-être rappeler les derniers chiffres, parce que la réalité est cruelle. On a appris il y a quelques jours que le taux de surmortalité sur la période mars-avril 2020 était de 128% par rapport à la même période de l'année dernière. C'est le journal Le Monde qui a fait état de ces chiffres à partir des données de l'INSEE et de l'Observatoire Régional de la Santé d'Île-de-France. C'est plus que n'importe quel département français. Comment, d'après vous, on peut expliquer un tel record, entre guillemets, triste record, alors qu'il s'agit du département quand même le plus jeune de France au niveau de sa population ?
Oui, tout à fait, vous avez raison, les chiffres sont effarants, je crois que c'est le cas de le dire, et effectivement il y a un paradoxe, c'est-à-dire qu'on est le département le plus jeune de France et pourtant la mortalité, la surmortalité y est extrêmement forte. Alors il y a plusieurs blocs de raisons, évidemment, il y a d'abord la réalité sociologique en fait de ce département. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre de France et en fait effectivement les corps des pauvres, les corps des ouvriers, les corps des immigrés ou des enfants d'immigrés portent le poids de ce vécu. il faut le dire. La Seine-Saint-Denis, par exemple, compte deux fois plus de diabétiques que Paris, deux fois plus aussi de maladies respiratoires chroniques. Donc, un ensemble de facteurs qui favorisent la comorbidité, pardon. Donc, effectivement, c'est vraiment, ça se joue sur des corps qui sont plus fragiles que d'autres parce que ce sont des corps qui ont porté le vécu de la misère, de la condition ouvrière, de l'immigration et de la suite de l'immigration. Et du reste, c'est une réalité que l'on trouve pas seulement en France. Hein. Aux États-Unis, vous avez bien vu que une partie importante, une surreprésentation des Afro-Américains dans les décès liés au coronavirus. Donc on voit bien qu'en fait, cette maladie, non seulement elle est un révélateur social, mais elle est un révélateur aussi de l'histoire incorporée, au sens qui est incorporée par le corps. Donc.
Et pourtant, tout cela, ça avait été souligné, ces inégalités. Il y avait eu un rapport parlementaire l'an dernier. Il y a eu à plusieurs reprises le président du département, hein, Stéphane Troussel, qui a alerté récemment. Il y a des médecins qui sont montés au créneau aussi pour réclamer une équité sanitaire. On a l'impression qu'il y a beaucoup d'appels au secours et que les choses changent assez peu.
Oui, vous avez tout à fait raison, mais on est vraiment face à des conditions qui sont assez structurelles. Donc là, par exemple, sur la question du corps, c'est vraiment un vécu long qui se joue ici. On ne change pas ça en claquant des doigts. Il y a la réalité aussi de l'accueil en hôpital, l'accueil de l'hospitalisation, de la médicalisation en Seine-Saint-Denis, qui est le département est le 89e, par exemple, en France, pour le nombre de généralistes pour 100 000 habitants. Donc on ne change pas ça du jour au lendemain. On peut faire les appels que l'on veut, mais la réalité demeure, en fait, la réalité résiste. Et il y a aussi, par exemple, beaucoup moins de lits à l'hôpital de Saint-Denis qu'il y en avait en 2012. C'est une politique qui, du reste, est nationale, hein, de fermeture des lits d'hôpitaux, mais on le ressent d'autant plus dans un département aussi pauvre qu'en Seine-Saint-Denis. Donc, effectivement, vous avez raison. On sait, en fait, toutes les inégalités qui sont les nôtres ici en Seine-Saint-Denis, mais la réalité demeure, et la réalité, en fait, a été aggravée, radicalisée, si vous voulez, par la gestion aussi, en fait, de la crise. C'est ce dont on a beaucoup parlé. C'est que les travailleurs de Seine-Saint-Denis ont continué de travailler. C'est beaucoup ce qu'on a appelé les travailleurs de première ligne. Je pense par exemple aux agents hospitaliers, dont 16% en région parisienne vivent en Seine-Saint-Denis. Je pense également aux aides-soignants, dont 15% vivent en Seine-Saint-Denis. Je pense évidemment aux caissiers, aux caissières. Je pense aux vendeurs, je pense aux livreurs. Donc tous ces gens à qui on a dit de continuer de travailler, certains pour des raisons sanitaires, d'autres non. Hein, d'autres pour des raisons strictement économiques. Je pense évidemment aux livreurs, à qui on a dit que il fallait qu'ils continuent de travailler et parfois au risque donc de se mettre en danger.
Même si le confinement a été bien respecté par ailleurs, hein, c'était des nécessités professionnelles qui ont fait que les gens sont
tout
sortis.
Tout à fait. Il y a eu une discipline collective sur la question du confinement. Maintenant, quand les gens doivent travailler, quand ils n'ont pas d'autre choix, ils vont travailler. Vous avez vu comme moi les photos du RER par exemple à 6h du matin en Seine-Saint-Denis ou à Gare du Nord donc pendant le confinement, et le RER était plein à craquer parce qu'il y a énormément de secteurs qui ont continuer de travailler pendant le confinement. Donc là, en fait, ce qui se pose, c'est la question de la rationalité libérale. La rationalité libérale qui dit que certaines vies valent plus que d'autres, que certaines vies peuvent être sacrifiées en temps de maladie. Pas forcément pour des raisons sanitaires, encore une fois. Quand on parle, par exemple, de livreurs ou des gens qui travaillent pour Deliveroo, pour Amazon ou pour ces grands groupes dont on sait qu'ils recrutent énormément dans les départements pauvres, comme la Seine-Saint-Denis, on se pose la question donc de la valeur qu'a la vie de ces des travailleurs. Donc,
est-ce qu'il y a un sentiment d'injustice ressenti par la population ou pas, ou il y a une sorte de fatalité?
Non, je ne crois pas qu'il y ait de fatalité. Sincèrement, je vois effectivement une colère qui est assez frappante, parce que il y a une colère qui vient tout simplement du sentiment de non prise en compte. Vraiment, l'injonction à télétravailler qui a été énoncée tout de suite. Donc la réponse au moment de la réponse gouvernementale face à la crise du coronavirus, on a dit aux gens d'aller télétravailler. Alors ça, c'était vraiment une preuve donc éclatante en fait de la non prise en compte donc du vécu des pauvres, du vécu des travailleurs, du vécu des caissières, des vigiles, tous ces métiers qui ne peuvent pas télétravailler. Donc effectivement, il y a une injustice du fait de ne pas être prise en compte par la collectivité et par l'État, évidemment. Et puis, il y a une autre injustice qui n'est pas tout simplement liée à la question de la maladie, qui est aussi liée à la gestion en fait du département pendant le confinement. C'est-à-dire qu'on a vu un certain nombre de pratiques policières, par exemple, ou de pratiques de démantèlement donc des camps de sans-abri, de migrants, de travailleurs pauvres, qui ont continué, qui ne sont pas du tout arrêtés du fait de la crise qu'on a tous traversée. Et ça génère évidemment beaucoup, beaucoup de colère. Les violences policières génèrent beaucoup de colère en temps normal. Au moment où tout le pays traverse une crise extrêmement grave, tout cela est radicalisé et redoublé.
Et on ne va pas se mentir, il y a peut-être aussi l'origine de la population. Je regardais les derniers chiffres, 44% des enfants de moins de 17 ans en Seine-Saint-Denis ont des parents immigrés. Est-ce que ce facteur-là, il renforce les inégalités, d'après vous, Hamza Esmili?
Le vécu du racisme est ancien, présent et futur, probablement, malheureusement, en Seine-Saint-Denis, évidemment. Vous l'avez bien vu à travers les dernières actualités. Quand on voit un équipage de police qui traite, je cite, de bico, un homme qui tombait dans la Seine, quand en plus on sait que cet équipage de police a été lui-même lié auparavant à l'affaire Théo, par exemple, à Aulnay-sous-Bois, donc on se dit effectivement qu'il y a une réalité tout à fait structurelle. Et ça, les gens le savent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de sociologues pour venir leur expliquer que, oui, leur vie est durablement structuré par un racisme qui est extrêmement présent. Donc oui, tout à fait, vous avez raison. Tout cela redouble la colère et ça ne s'atténuera pas tant qu'on restera dans des postures d'un côté de communication et de l'autre d'autoritarisme. Ça ne peut pas être ça. Les gens sont plus intelligents que ça.
J'ai une dernière question à vous poser. Mais quand vous voyez qu'une des plus grandes agences de publicité comme BETC vient s'implanter dans votre département, en l'occurrence à Pantin, l'agence de Mercedes Serra, comment vous réagissez? Vous dites que enfin une occasion de décloisonner la Seine-Saint-Denis, de changer son image?
Écoutez, moi je constate, je constate que effectivement c'est le postulat libéral. Je le dis sans connotation nécessairement négative, c'est-à-dire que c'est l'idée que le salut viendra des entreprises, que pour sortir les gens de leurs conditions, ce sont les entreprises, le secteur privé qui va permettre une sorte d'ascension sociale collective. Bon, la réalité n'est pas tout à fait celle-là, il faut le dire pour le dire le moins. Aujourd'hui, on sait que les entreprises qui s'installent, par exemple à la Plaine Saint-Denis, où il y a énormément d'entreprises de services qui sont installées, viennent avec leurs travailleurs, évidemment, c'est-à-dire que travailleurs plus qualifiés que la moyenne des gens en Seine-Saint-Denis, qui viennent avec des salaires en plus qui sont relativement importants, et donc en fait qui contribuent à faire ce qu'on appelle la gentrification, donc c'est-à-dire à l'augmentation des loyers, et donc à en fait chasser de plus en plus loin les habitants des quartiers populaires. C'est ce qu'on a vu par exemple à Montreuil, donc de plus en plus loin de Paris, de la petite couronne. Donc oui, je pense
ça,
que c'est
la gentrification qu'on connaît, Hamza Esmili, mais cela dit, le fait que les entreprises viennent s'implanter, ça peut être aussi une chance pour la population. Et on va demander, et je vous remercie Hamza Esmili d'avoir répondu à nos questions, mais je voudrais maintenant me retourner vers Mercedes Hera et lui demander d'abord de réagir à tout ce que vous venez de nous dire, et puis sur ce choix de s'implanter à Pantin. Mercedes Hera,
alors il y a deux choses, d'abord je suis très sensible à tout ce qui a été dit, puisque je pense qu'il y a un vrai problème structurel de l'inégalité aujourd'hui en France, et que donc monsieur a raison. Du coup, quand une crise frappe, elle frappe plus durement, là où l'inégalité est déjà forte. Sur l'éducation, qui est un des sujets qui me passionne le plus, c'était hyper difficile. Je discutais avec des institutrices qui ont vu décrocher des gamins, mais comment est-ce que font des parents immigrés pour s'occuper des gamins, faire tout ça? C'est très difficile. Donc, on sait déjà qu'on a une école, par exemple, qui est inégalitaire. C'est évident que la crise l'accentue. On sait que la maladie est inégalitaire, c'est-à-dire on sait très bien où sont le plus grand peuplement de diabétiques, de gens de taille trop importante, etc. Et ça croise la maladie.
Mais après, le rôle d'une entreprise comme la vôtre, le rôle d'une grande agence de pub.
Moi, je veux pas faire de théorie, mais je veux bien vous expliquer pourquoi nous on a fait ça. Nous, on préférait être à Pantin. Pour nous, c'était important d'être dans des lieux où il nous semblait qu'on apportait quelque chose. Après, c'est difficile de dire quand on arrive qu'on gentrifie, mais quand on n'arrive pas, qu'on traite pas correctement. Donc nous, on a fait le pari de se dire que c'était bien d'être à Pantin. On a essayé de mailler. Vous savez, on a recréé ce lieu qu'on adorait, parce que c'était un bâtiment qui était en train de mourir et qu'on trouvait qu'il fallait dépasser le périphérique et aller sauver des choses en banlieue, que le périphérique ne pouvait pas signifier une rupture totale. Donc pour nous, c'était très important. On a recréé ce lieu qui s'appelle les magasins généraux. On a réfléchi aussi comment on pouvait inquiéter les gens, parce que on est différent, on arrive, etc. On a essayé d'ouvrir le lieu le plus possible. On fait des expositions qui sont ouvertes à tous les Pantinois. Et surtout, on a un lien très fort avec le maire, et les écoles. Et c'est, je pense que maintenant, toutes les écoles de Pantin viennent faire leur stage de troisième chez nous. En tout cas, nous, ça nous fait du bien. Donc, on n'a pas. Je déteste théoriser surtout, mais je pense qu'on a intérêt. Moi, je crois au mélange. Donc, je pense que c'est bien de se mélanger. Je pense qu'il faut pas rester que dans les beaux quartiers. Il faut. Ça a été un effort hein, pour notre population. C'était pas si évident que ça hein, quand on leur a expliqué qu'on allait passer le périph et qu'on allait aller à Pantin parce qu'ils nous parlaient de la ligne de métro qui n'était pas pareille, etc., etc. Donc ça a été un effort, mais moi je crois à la diversité. Je pense au maillage et je pense que si vous appelez le maire de Pantin, il va penser que c'est un plus et je pense pas que c'est un maire de droite.
Voilà, vous pensez à la diversité, vous qui êtes enfant d'immigrés, Mercedes Serra. Vous
et présidez... qui m'occupe du musée de l'immigration.
Voilà, j'allais vous demander, vous êtes toujours à la tête du conseil d'administration du Musée national de l'histoire de l'immigration.
Oui, je suis présidente du conseil d'administration de ce musée formidable qui maintenant est avec le François Héran, président du conseil d'orientation. Et je pense qu'on va sortir des études qui, quand on aura remonté à une personne de plus que le grand-père, donc notre arrière-grand-père, on apprendra qu'un tiers des Français est issu de l'immigration et que la France, ça a été une terre d'immigration et c'est ça sa vraie histoire et que c'est dommage de ne pas retrouver des systèmes d'intégration puisqu'aujourd'hui, en fait, s'il y a des inégalités qui s'accroissent, c'est que les systèmes d'intégration sont moins forts. Après, je voudrais juste dire qu'on parle beaucoup des migrants, mais on a très peu de migrants en France, et donc on peut trouver des solutions parce qu'on en a très peu. Et donc, il ne faut juste pas faire que, comme si la France était envahie, elle est loin d'être envahie. Et je pense que quand on ferme les frontières, d'ailleurs, on s'aperçoit à quel point certains secteurs ont été gênés par le fait que les travailleurs ne pouvaient plus passer les frontières. Donc, je trouve en tout cas que cette crise a un intérêt, en tout cas important pour moi, c'est de faire prendre conscience que tous ces métiers, parce que monsieur en parlait au masculin, mais ces métiers, les trois quarts du temps, ces métiers invisibles, c'est des métiers de femmes.
Alors justement,
et
merci.
Tous ces métiers invisibles, il faut quand même qu'on réfléchisse à payer ce qu'il faut pour qu'on puisse continuer à vivre aussi bien, parce que ces métiers invisibles sont fondamentaux.
Eh bien évidemment, on va en parler, parce que ça, c'est un autre de vos combats. Juste quelques minutes, le temps d'écouter Loose and the Yakuza.
Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. La naissance, on nous a promis monts et merveilles, à condition qu'on la ferme, qu'on oublie l'essentiel. À qui demander de l'aide à part au Père éternel? Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 année de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 année de l'indépendance. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Toujours devoir débattre, oh non. Toujours devoir se défendre, oh non, non. Se battre jusqu'à la muerte, parce qu'on a trop de fierté. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Comment faire pour ne jamais leur rendre l'appareil? Personne ne peut voir à travers les liens fraternels. Certains continuent à nous voir comme leurs adversaires. Pourquoi le noir n'est-il pas une couleur de l'arc-en-ciel? Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 année de l'indépendance. Que Dieu m'éloigne du chemin de la vengeance, le rendre la paresse est tentant. Dois-je crier pour qu'on m'entende? 6-0 année de l'indépendance. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne.
Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Parle, allez, dis-moi ce qui te gêne. Je sens ton regard et ton cœur qui se gèle. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera
solo. Loose and the Yakuza, choix musical de Muriel Pérez.
France Inter, le 18-20. Claire Servageant.
Toujours en compagnie de la publicitaire Mercedes Hera. On connaît, Mercedes Hera, votre engagement féministe de longue date. Et il se trouve que le confinement a montré une hausse des violences à l'égard des femmes. Il est venu rappeler aussi à quel point le partage des tâches domestiques était inégal. C'est universel, on l'a vu dans tous les pays. Le confinement a accentué les inégalités. On va voir ça avec ce reportage de Marwaman à Bergame, en Italie.
Depuis le début du confinement, Oriana est sur tous les fronts.
C'est moi qui ai tout géré, absolument tout, tout dans tous les aspects.
Cette conseillère en ressources humaines va devoir rester à la maison le temps de trouver une solution pour la garde de ses deux enfants, contrairement à son mari.
Je crois qu'on assiste à une régression car mon mari fait partie des gens qui n'ont pas cessé leur activité. Et avec la reprise, c'est moi qui suis pénalisée.
Ce dilemme est celui de nombreuses femmes en Italie. Nadia, également mère de deux enfants, s'est résolue à différer son retour au travail.
On doit l'accepter. Pour le moment, c'est une question de priorité. Dans le futur, on va voir. On doit marcher ensemble. C'est ça ma bataille.
Reprendre son activité professionnelle. Marcia, 33 ans, deux enfants en bas âge, en rêvait. Cette responsable commerciale est parvenue à trouver un compromis avec son mari avocat.
Il va travailler le matin et moi je vais travailler dans l'après-midi. Il sait qu'il est important pour moi de travailler un petit peu aussi pour sortir parce que j'ai resté à la maison pendant 2 mois, je ne suis jamais sortie, il me faut un peu de temps pour moi.
Le coronavirus n'a pas seulement révélé les inégalités entre les hommes et les femmes, il les a également creusées.
Un reportage Omar Waman et Fabien Gosset. Mercedes Hera, c'est une dure réalité quasi universelle ce qui s'est passé là.
Oui, c'est une dure réalité, mais c'est aussi en fait, et en France on est un peu hypocrite, une situation qui est depuis toujours là, sauf que là on la voit mise en perspective sous une loupe, mais globalement le partage des tâches, on n'y est pas. Une femme travaille 3 heures de plus par jour qu'un homme, en global. Donc on est encore dans des systèmes qui ne sont pas égalitaires. Donc si on veut bouger les choses, il va falloir vraiment faire des efforts. Et c'est vrai que des périodes comme ça ne nous aident pas à aller de l'avant. On revient un tout petit peu, que ce soit au niveau des violences, que ce soit au niveau du partage des tâches. Moi, je le vois, y compris dans l'agence. On est censé avoir des jeunes femmes avec nous qui sont extraordinairement éduquées, vivent, qui font des métiers formidables. Et je sais que la charge est sur elles et je le sens. Et nous faisons des enquêtes puisque nous sommes en télétravail et on voit très très bien que ça pèse très lourd sur les femmes.
Vous le voyez dans l'agence Mercedes Hera, mais vous le voyez pas chez vous parce que, allez, on va rappeler que chez vous, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. 5 enfants. Alors et c'est là, monsieur qui avait pris l'habitude de rester à la maison.
Alors là, c'est une légende.
C'est vrai ?
Mon compagnon est à la maison, ça c'est vrai. Il m'a beaucoup aidé, ça c'est vrai.
Bah, il s'était arrêté de travailler pour s'occuper de la maison, non ? Ça c'est pas vrai ?
Oui, en fait,
Vous êtes en train de nous dire que finalement, vous aviez quand même du boulot en rentrant.
Je suis obligée de vous dire que j'ai été plus aidée parce que quand, par exemple, mes enfants étaient petits, j'angoissais pas à l'idée de rentrer un peu plus tard. En revanche, je pense pas que j'ai la vie d'un homme. Je pense que je travaille aussi 3 heures de plus qu'un homme.
Malgré tout.
Je pense que je suis très médiocre sur ce point-là et que c'est dommage que moi-même, je n'arrive pas à donner l'exemple. Et que je crois qu'on a quand même un problème aujourd'hui de difficulté même, nous-mêmes, de rééquilibrer, quoi. on est trop parfaite, quoi. Faut qu'on se calme. Voilà, faut qu'on se calme.
Si même vous, vous dites ça. Mercedes Serra, si vous le voulez bien maintenant, pour terminer, on va prendre l'air parce que on en a besoin. On va respirer à plein poumon. Sandrine Houdin s'est sacrifiée pour l'occasion. Elle est allée au bois de Boulogne demander à des promeneurs si l'herbe y était plus verte qu'avant et si elle avait toujours la même odeur.
Une dame, je vois quasiment même pas sa tête, enfoncée dans l'herbe. Madame? Oula. Pardon, je vous réveille. Juste une question.
Tout de suite, là?
Une minute.
Pas plus, alors.
L'herbe, là, elle a une autre odeur?
Ouais. Je la touche, l'herbe, je joue avec. J'ai envie de la sentir.
Et ça veut dire quoi, ça?
Elle a le goût de la liberté. Ouais, ouais. Après 2 mois en prison, le petit instant de sérénité que l'on peut ressentir après cette crise, quoi, cette crise de merde. En plus, avec éventuellement le retour d'une seconde vague, perso, moi, j'ai eu un tel manque. Entre 2 rendez-vous, je me dis, prends le temps.
Bonjour, monsieur.
Mesdames, bonjour.
J'étais en train de parler à la dame. Juste une seconde. L'herbe qui est là.
Bah oui, j'habite à côté, donc je connais très bien l'endroit.
Est-ce que l'herbe est différente avant le confinement et après le confinement?
Déjà, on se parle. Et je veux dire quelque chose, c'est super agréable. Non, mais vraiment.
Oui, effectivement. On se parle plus facilement.
Attendez, moi, je reviens de 4 ans d'Afrique. En Afrique, j'ai appris à ralentir le temps. Et ce qui est très drôle, c'est que le confinement, ça a ralenti le rythme des gens. Regardez les gens, comment ils marchent. Ils ne marchaient pas comme ça avant. Avant, c'était du speed. Je trouve que c'est excellent.
Pareil, quelque chose a changé.
Ouais, c'est du bonheur, l'herbe, là, maintenant. C'est super bon, c'est un petit orgasme, quoi.
Pardon ?
C'est une jouissance, c'est une vraie jouissance.
Mais l'herbe, elle était là avant le confinement ?
Elle était là, mais je crois que je ne la voyais pas. Ou que je ne la voyais plus.
Même discours pour cette maman, elle est venue pour un pique-nique entre copines. L'herbe, elle a quel goût?
La nature.
Mais elle était là avant la nature.
Parce que je pense que quand on est confiné, lorsqu'on sort, on s'émerveille de tout.
C'est-à-dire?
Je pense que le confinement m'a tout simplement fait penser que j'avais oublié des choses.
Quoi?
Remettre l'église au milieu du village.
Et c'est quoi l'église?
C'est soi. C'est ce pourquoi on vit, ce pourquoi on est motivé, ce pourquoi on aime. C'est ça l'église. Demain, comment finalement on va vivre sans ce confinement?
Vous vous rendez compte ce que vous venez de dire? Sans ce confinement?
Oui, sans parler de la maladie, bien sûr. Ça m'a ouvert sur d'autres choses.
Un couple sur un banc. Pardon monsieur, l'herbe, là, différente, pas différente?
Ça a changé.
Qu'est-ce qui a changé?
Il n'y avait personne, c'était vide. On se croyait dans les films d'apocalypse. Et d'un coup, tout est reparti à la normale. Bon, c'est vrai qu'on voit les gens avec des masques. Par contre, ça fait du bien. Psychologiquement, ça n'a rien à voir. Quand il y a eu le confinement, c'était la vie s'est arrêtée.
Ça veut dire quoi? C'est quoi la vie?
La liberté. On réapprécie la vie. Voilà.
Est-ce que je peux vous demander ce que vous faites là?
Ah là, on essaye de faire des jeux d'équilibriste.
Est-ce que c'est bon?
Écoutez, je trouve que c'est même mieux que ça.
Ça veut dire quoi, c'est mieux que bon?
C'est dur à exprimer, je sais pas moi.
Elle a changé de goût? Elle a pas changé de goût, cette herbe?
Elle est bien meilleure. On revit. On se lâche, quoi.
Ça veut dire que le confinement a eu du bon?
Ah, bien sûr, bien sûr.
Pour ces 2 retraités sous leur parasol, c'est pas si simple.
Pour moi, c'est quelque chose que j'ai très mal supporté.
Vous parlez du confinement, mais là, c'est fini maintenant?
Non, on ouvre les plages, vous avez un carré, il faut que les gens réservent leur place, et ils ont un chemin pour aller se baigner. Où on va, là, où on est?
On nous impose tout, on ne peut plus vivre. À 80 ans, c'est pénible, pénible.
Mais madame, s'il y avait juste un effet positif, ça fait combien de temps que vous n'avez pas mis les pieds comme ça en enlevant vos chaussures dans l'herbe fraîche?
Ça me fait du bien déjà de savoir que j'ai pas une heure et que j'aurai pas 135 € d'amende. Voilà.
Et ça, c'est bon, juste ça.
Oui, au soleil, les pieds dans l'herbe. Voilà.
Un reportage de Sandrine Houdin qu'on remercie. Mercedes Serra, vous venez d'entendre, les Français, on dirait qu'ils ont changé pendant ce confinement, ils se parlent plus, ils savourent. C'est bon pour la pub, ça, non?
C'est bon pour la vie. C'est bon aussi. Je pense qu'il faudra tirer des conséquences de ce que nous avons vécu. C'est-à-dire, ne serait-ce que travailler différemment, ne pas s'agiter dans tous les sens. Peut-être un retour à des choses essentielles. En tout cas, c'est ce qu'ils nous disent, les gens, quand on les interroge. Ils disent que il y a des choses plus importantes, des choses fondamentales auxquelles ils seront plus attachés. Donc, le temps qui s'arrête, ça a du bon.
Moins morose, moins pessimiste, alors qu'on connaît les Français sont quand même très pessimistes. Ils sont en train de revoir leurs priorités dans la vie et ça, forcément, ce sera différent pour la suite.
Bah oui, parce que d'ailleurs, ça fait réfléchir les marques qui doivent toutes définir un rôle important. Peut-être que, en fait, quand on parle de consommation, de toute façon, les gens passent à travers un filtre, qui est un filtre la planète, qui est est-ce que j'en ai besoin, etc. Et ça, c'est plutôt pas mal qu'on réfléchisse à sa consommation.
Eh bien, ce sera le mot de la fin. Un très grand merci, Mercedes Hera, d'avoir passé ces 45 minutes en notre compagnie. Merci, merci mille fois. Dans un instant, le journal de 19h. Ensuite, à 19h20, le téléphone sonne, qui sera consacré ce soir au municipal. Second tour le 28 juin, si tout va bien, mais avec des garanties en matière sanitaire. On verra tout cela en détail avec nos invités. Pour nous joindre, le numéro est toujours le même, le 01 45 24 7000. N'hésitez pas à nous appeler. Les standardistes attendent vos appels.